De la Loge au Plateau, c'est une compagnie marseillaise créée en 2007 qui s'intéresse dans ses créations à des questions de genre et d'identité. En 2022, le spectacle Vedette se joue notamment très prochainement le 15 novembre et le 16 novembre au théâtre Antoine Vitez. Geoffrey Copimi, auteur du texte de Vedette et metteur en scène, ainsi que Jérôme Nouns, co-auteur et chargé de production, sont présents dans le studio marseillais. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, de quoi ça parle Vedette ? Dans une précédente interview, Geoffrey, vous parliez de badinage, playback, travestissement et conte merveilleux subversif.
Ah.
Tout ça à la fois.
Tout ça à la fois. Ouh là là, ça fait beaucoup. Vedette, on va dire l'histoire de Vedette, elle est assez simple à la base, puisque c'est un théâtre de province qui s'apprête à accueillir une compagnie parisienne lors de sa tournée avec un spectacle haut en couleur qui a fait un peu scandale à Paris et qui s'appelle Poutin ou le prince travesti. Mais le théâtre va mal, il ne reste plus qu'une relation publique et un technicien pour finir la saison. La neige s'invite dans cette histoire, tous les seconds rôles sont bloqués à Paris ainsi que le décor sur les routes et il n'y a que Gabriel, l'acteur principal de la pièce Poutin ou le prince travesti, qui arrive à bon port. Et donc il est inconcevable d'annuler cette représentation, donc la relation publique du théâtre tenace va se mettre en quête de trouver 5 acteurs amateurs remplaçants pour tenir les seconds rôles et faire que le spectacle ait lieu. Et en réalité c'est la même chose puisque dans chaque théâtre où nous passons, nous recrutons 5 acteurs amateurs et qui vont vivre cette expérience un peu unique de Vedette, puisqu'en fait, Vedette, et nous suivons les répétitions à vue de Poutin ou le prince travesti. C'est ça, Vedette.
Une vraie mise en abîme.
C'est une succession de mises en abîme, ça n'est pas la seule dans le spectacle. Mais en tout cas, c'est justement, toute l'écriture est faite comme ça, en succession de mises en abîme.
Et c'est une écriture que vous avez fait à quatre mains. En tout cas, vous étiez tous les deux dans ce processus. Comment ça s'est déroulé ?
Ça s'est déroulé au départ, je suis arrivé avec une idée. C'est-à-dire que j'avais rencontré lors d'une tournée un technicien qui m'a un peu livré son intimité, qu'on ne se connaissait pas du tout. Il m'a parlé de son désir pour les personnes trans, de son envie d'être à Paris, en même temps la crainte de basculer, on va dire, dans un côté un peu sombre de la nuit parisienne, et qu'il préférait rester en province, là où il y avait un peu moins de danger et d'opportunités, et du coup rester quelqu'un de respectable aux yeux de son entourage. Donc j'ai trouvé
c'est ce témoignage-là qui a déclenché...
C'est ce témoignage-là qui m'est resté. Je me suis dit, mais pourquoi ce témoignage me reste dans la tête? Il faut que j'en fasse quelque chose. Et ça correspondait aussi au moment où on a eu les premiers témoignages des rescapés des camps d'extermination en Tchétchénie. Puisqu'en Tchétchénie, il y a des camps d'extermination pour homosexuels. Et en fait, c'est deux choses, donc quelque chose qui est de la grande histoire et on va dire de l'oppression ultime, et on va dire une autre chose qui est de la petite histoire de cet homme, de ce technicien de province. Ces deux choses sont un peu mélangées dans ma tête. Et je n'avais pas envie, d'habitude, j'écris seul, et là, j'avais envie d'inviter Jérôme Nunes dans l'écriture. Pour faire entrer un peu d'altérité dans mon travail. Et donc, je suis arrivé avec cette chose-là, je lui ai expliqué et je lui ai dit, voilà, ça doit s'appeler Vedette et il faut qu'on l'écrive.
Et pour vous aussi, Jérôme Nounet, c'est une première d'écrire à quatre mains un texte et de venir, après que l'idée est germée, participer à la co-écriture d'une scène de théâtre?
Alors pour le théâtre, oui, c'était une première. Moi, j'avais jamais écrit pour le théâtre. Je connais Geoffrey de longue date et j'ai suivi tout son parcours et tous ses spectacles. Donc je connaissais bien l'univers auquel j'étais très sensible. Moi, je viens plutôt du cinéma, donc c'était aussi une volonté de Geoffrey de peut-être mettre un élément cinématographique, scénaristique dans cette écriture-là. Je pense que l'écriture à quatre mains, c'est aussi ça qui a déclenché les successives mises en abîme, puisqu'on était plusieurs et on s'est réparti les rôles de façon assez naturelle. Geoffrey, il était beaucoup sur les monologues, moi j'étais plutôt sur les aspects structurels et les glissements, etc. Et là, je parle que de l'écriture, hein, pas de la mise en scène, évidemment. Et par ailleurs, moi je milite aussi beaucoup pour les droits LGBT, donc tout ce qui est... En fait, l'idée initiale, c'est effectivement cette rencontre avec le régisseur, et après on a essayé de tisser ça avec une actualité qui était non seulement ce qui se passe en Tchétchénie, mais aussi beaucoup en Russie avec ce qu'ils appellent maladroitement les lois anti propagande homosexuelle, qui sont en fait des règles homophobes. Et tout ça évidemment résonne tristement avec l'actualité, puisque c'est un texte qu'on a commencé à écrire en 2015. Évidemment, on a créé le spectacle cette année, et Poutine était heureux en haut de l'affiche pour par rapport à l'Ukraine. Donc voilà, ça c'était un peu un côté laboratoire d'écriture, et ça a donné le spectacle qui s'est créé le mois dernier à Marseille.
Et avec quel ton vous les abordez, donc ces sujets de discrimination contre les personnes LGBT, QI+.
L'idée, en tout cas, l'idée de départ, c'était vraiment d'essayer de parler de choses graves d'une manière ludique. Ludique, voire grotesque. C'était ça l'enjeu. Je pense que c'est ce à quoi nous sommes arrivés.
Comment vous y êtes arrivé, justement ?
Ben, grâce à ces glissements, en fait. Grâce au fait que, ben, qu'on passe comme ça. Moi, c'est un truc, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, en fait. C'est-à-dire qu'on rit, on rit. Et puis, d'un coup, on se rend compte qu'en en fait, il faut s'arrêter de rire. Et ça, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup, de un peu prendre au piège, en fait, le spectateur.
Vous jouez avec la gêne du rire. Mmh. On rit, mais on est gêné, c'est ça ?
C'est ça. C'est un peu ça l'idée. Et puis le fait qu'il y ait donc ces cinq vedettes acteurs amateurs qui sont sur scène, automatiquement ça crée une distance, en fait, parce qu'on voit des acteurs qui peu à peu deviennent les personnages. Et en fait c'est ce va-et-vient constant entre acteurs et personnages, en fait, qui est à vue. Et c'est ça aussi qui amène le côté ludique de la pièce.
Vous brouillez les pistes. Vous vouliez réagir, Jérôme ?
Non, je pense qu'il y a l'histoire des glissements et du décalage. C'est-à-dire qu'effectivement, les acteurs amateurs sont de facto décalés, puisqu'eux s'approprient le spectacle à un intervalle très très court, en fait. Donc on joue beaucoup sur ça. C'est un peu le double du spectateur qui découvre le spectacle, puisque eux, alors ils ont eu vent du spectacle évidemment avant, mais quelques jours avant, en fait. Donc ça va se construire avec eux, et eux ont cette naïveté par rapport au vrai spectacle, donc Poutin, la pièce mise en abîme, Poutin ou le prince travesti. Et là aussi, on a joué le décalage. Évidemment, ça nous amusait beaucoup que le personnage joue en couleur de Poutin et son double Miss Poutinka, qui joue un peu le rôle de la metteuse en scène pour que son spectacle aille à bon port, se fasse, qu'on joue sur ce genre de décalage-là, et la pièce va crescendo. C'est-à-dire qu'au début, il y a un côté très ludique où, tiens, on essaie de fabriquer une pièce avec des acteurs amateurs, et puis au fur et à mesure, on rentre dans la pièce Poutin ou Prince Travesti, qui est assez sombre, puisqu'il s'agit d'oppression, de lois homophobes, de répression, de torture aussi. Et effectivement, la pièce, quand on arrive à la fin, on a une relecture de ce qu'on a vu au début, où on a souri en se disant, tiens, on a le ludique de préparer un spectacle, de monter un spectacle, mais en fait, de quoi est-ce qu'on parle ? Et la thématique, on l'aborde, on s'enfonce petit à petit dans une forme de noirceur, qui, je trouve, était ce qu'on a essayé de construire.
Alors, sur scène, il y a trois acteurs professionnels et donc cinq acteurs amateurs, donc pour le théâtre Antoine Vitez, est-ce que vous avez déjà trouvé les cinq personnes qui vont accompagner Samir Elkaroui, Frédéric Schulz-Richard et Irina Solano ?
Alors, les cinq acteurs pour Aix-en-Provence sont sélectionnés ce soir. En fait, il y a eu un appel à participation et donc il y a 37 personnes inscrites. Et donc, je rencontre les 37 personnes ce soir au théâtre Antoine Vitez, et il n'en restera que 5.
Et comment ce casting se fait, alors ? Sur des extraits de texte ?
Pas du tout. En fait, c'est pas vraiment un casting, parce que je pourrais très bien aller boire un café avec eux et les choisir comme ça, en fait. C'est-à-dire que je prends pas les meilleurs. C'est pas ça l'intérêt de la pièce. Il y a des rôles qui sont écrits, et donc il faut pourvoir ces rôles. Et donc du coup, il faut que les profils correspondent. Donc c'est pas parce que, par exemple à la Joliette, je n'ai pas pris les meilleurs des meilleurs que j'avais en audition. J'ai pris ceux qui pouvaient correspondre au personnage qui était écrit et aussi, comment dire, instinctivement sentir bah, que ça peut fonctionner aussi dans le travail, parce que c'est compliqué. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec des acteurs que je connais, des acteurs professionnels que je connais, et là, en fait, on est des inconnus, donc il faut qu'on se fasse confiance extrêmement rapidement, puisque je travaille 3 jours avec eux.
3 jours avant la représentation?
Oui.
Ah oui,
j'ai
oui,
3 jours de répétition avec eux. Donc du coup, il faut que ce soit extrêmement rapide dans la mise en confiance qu'on a entre nous. Surtout que je leur demande de faire des choses assez... Je leur en demande beaucoup, hein, parce qu'il faut qu'ils y aillent avec leur corps et qu'ils se livrent un peu. On en rigole souvent, mais dans la pièce de vedette, la relation publique dit aux acteurs amateurs, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour dépanner sur une ou deux répliques, ce qui est complètement faux en fait.
C'est de la figuration.
C'est pas du tout de la figuration. Sur 1h40 de spectacle, ils sont 1h10, 1h15 sur scène.
Et quels sont les personnages dont ils doivent se saisir alors ?
Alors, c'est les personnages de Poutin ou le prince travesti, donc c'est un peu un conte féerique dark, où le prince Poutin est très gentil et homosexuel, et il souffre beaucoup de cette déviance. Et donc, il y a le roi, donc le père de Poutin, le cardinal, celui qui dicte les lois, la bonne sœur, qui est en fait une fémène infiltrée dans l'histoire, la folle du roi et le prêtre. Donc voilà, ce sont les 5 personnages.
Et ce conte-là, Poutin et le prince travesti,
ou le
prince travesti, ou. Vous pourriez le détacher de vedette et que ça devienne une pièce à part entière, ou c'est vraiment imbriqué les deux?
C'est vraiment imbriqué. Hein.
Après, on a, dans le travail d'écriture, ce qui était intéressant, la première étape, ça a été ça. Ça a été de, tant qu'on n'écrivait pas Poutin ou le prince travesti, on avait du mal, évidemment, à faire les allers-retours avec la réalité. Et donc, tout le développement sur cette loi dans un royaume qui était dicté, évidemment, raisonné avec la Russie, et ce prince homosexuel amoureux d'un homme, comment il va faire pour survivre alors qu'il doit accéder au trône et qu'il n'a pas d'épouse. Donc, on a écrit vraiment tout ça, et même s'il y a énormément de mise en abîme, il y a une vraie cohérence par rapport à l'histoire de base de Poutin le prince travesti.
Dans ce conte-là, on peut vraiment voir à travers ce conte les violences qui sévissent contre les homosexuels en Russie et en Tchétchénie. Comment vous avez fait votre recherche sur cette grande histoire-là? Quels éléments vous avez voulu garder? La réalité, la rendre de façon à une fiction poétique, voilà.
Bah, peut-être que, enfin, juste, donc moi je militais aussi pour la cause LGBT. J'ai été traducteur à un moment donné pour des centres de demandeurs d'asile, tout type de demande d'asile, et il y a une partie particulière qui sont les réfugiés, ce qu'on appelle les demandeurs d'asile LGBT. Et du coup, dans ce cadre-là, moi j'ai assisté à beaucoup de témoignages, donc on s'est inspiré en partie de ça, on s'est inspiré de ce qu'on savait à l'époque, de ce qui se passait en Tchétchénie, puisque ça a été quand même une information qui n'est pas forcément connue du grand public. On le sait, dans le milieu LGBT, etc., il y a eu des exfiltrations, on sait pas trop ce qui s'y passe encore maintenant. Il y a une association qui aide, qui s'appelle Urgence Homophobie, qui aide les personnes qui trouvent refuge depuis la Tchétchénie. Donc on est parti de ça, et après on sait aussi, par exemple, il y a une scène de torture, sans spoiler, mais qui s'appelle le test de phallométrie, qui est un instrument de torture qui a vraiment existé en Europe de l'Est, qui n'existe plus, hein, qui est maintenant réprimé, mais qui était un test pour en gros prouver votre homosexualité, où on vous donnait des stimuli visuels, et puis on branchait tout ça sur le phallus, d'où son nom, test de phallométrie, pour essayer de savoir si vous étiez homosexuel ou pas, et ensuite vous punir de ce crime. Donc il y a la pièce, elle a cette force qui est qu'on s'approprie les choses de façon poétique, c'est pas du tout une pièce documentaire, mais par contre on s'appuie sur soit des faits réels, soit des choses qui ont vraiment existé, avec voilà, un impact sur le public, il nous semble, puisque vers la fin de la pièce, c'est le moment de ce fameux test qui a un fort impact sur le public.
Et au-delà de ce sujet-là, ce qu'il y a aussi abordé en mise en abîme, c'est un peu la difficulté des petits théâtres de province, peut-être, de continuer à vivre, à résister face aux gros théâtres. En tout cas, c'est ce qui est évoqué. Et peut-être la difficulté aussi de travailler avec des acteurs amateurs, acteurs professionnels, de brouiller.
C'est, on va dire que la pièce parle de la situation, c'est que ce petit théâtre de province n'a plus de direction, il ne reste plus qu'une relation publique et un technicien pour finir la saison. Il vient d'être requalifié par les institutions, donc le gros théâtre de la ville va fusionner avec ce petit théâtre. Donc des deux théâtres, en fait il n'en restera qu'un, et le petit théâtre sera un peu une salle de répétition ou de résidence. Et en fait, c'est aussi un constat, c'est-à-dire que tous les petits lieux où on pouvait avoir le temps de travailler, de chercher, de se tromper, hein, parce que se tromper aujourd'hui, ça n'est plus tolérable. Mais du coup, tous ces petits lieux, en fait, peu à peu disparaissent et sont avalés par des lieux de diffusion. Alors c'est très bien la diffusion, mais pour pouvoir faire un spectacle et être diffusé, il faut le construire. Et pour pouvoir le construire, il faut chercher. C'est aussi bête que ça, mais c'est comme ça. Et à l'heure actuelle, c'est très difficile de chercher, en fait. C'est-à-dire qu'on nous demande d'être efficace.
C'est une façon de dire garder les lieux de résidence, garder des lieux aussi de médiation avec le public.
Avec le public, il y a des lieux qui faisaient un gros travail avec le quartier aussi. Ça paraît rien comme ça, mais en fait, il y a des lieux qui sont très importants pour certains quartiers et qui peu à peu disparaissent, en fait.
Donc c'est une réflexion aussi sur le monde du théâtre plus largement que vous portez dans cette pièce.
Oui, c'est un peu un constat, c'est-à-dire qu'on fait le fait que le décor soit bloqué sur les routes, le fait que les acteurs soient également bloqués sur les routes, en fait, on souligne le fait qu'on va faire, préparez-vous, on va faire du théâtre avec rien. Et en fait, c'est ça la magie, on va dire, à mon sens, de Vedette, c'est-à-dire qu'on arrive, il n'y a rien. Et les seules personnes qui sont sur le plateau, en fait, ce sont des acteurs amateurs, en dehors des trois professionnels qui les encadrent. Et donc, du coup, l'idée, c'est arriver à raconter une histoire, à faire un spectacle, arriver à faire rêver aussi les gens avec rien.
Et ces acteurs amateurs, est-ce qu'ils bénéficient d'une rémunération aussi pour les dates qui vont, lesquelles ils vont être sur scène?
Les acteurs amateurs sont défrayés.
Sont défrayés
parce que ce n'est pas possible, vu le financement du projet, de payer 5 personnes en plus. Donc ils sont défrayés.
Et comment vous avez financé ce projet, justement?
Alors ce projet a eu beaucoup de mal à être financé, pour plein de raisons, j'imagine. En tout cas, la ville de Marseille a suivi le projet dès le début, financièrement, et c'est la seule institution qui l'a suivi. Et ensuite, les théâtres, on peut citer Montevideo, nous avons été en résidence d'écriture pour la pièce. La première étape de travail a eu lieu à Place aux Compagnies, à la distillerie à Aubagne. Ensuite, nous avons eu la résidence du théâtre Joliette dans la salle de Lanche. Ensuite, nous sommes partis à la scène nationale de Chambéry et du collectif d'artistes L'Endroit, où nous avons fait une troisième résidence. Et le théâtre Joliette, coproducteur du spectacle, unique coproducteur du spectacle, qui nous a, entre guillemets, sauvés, qui nous a permis de faire... cette création, en fait.
Ça a été un long processus.
Juste, je rajoute une résidence récente,
Château-Vallon-Liberté,
qui a permis de traverser la dernière partie du spectacle. En fait, il y a eu plusieurs résidences qui balayaient tout le début du texte, et la fin du texte, on a eu du mal à la trouver, elle est arrivée récemment, et elle a été répétée avec les acteurs professionnels à Château-Vallon en septembre.
Et alors Antoine Vitesse, ça arrive très vite, oui. Je le répète, c'est le 15 et le 16 novembre. Au-delà de la représentation, vous aussi proposez de recréer le 911, lieu clandestin à Moscou, qui est cité dans la pièce
et qui existe
encore.
En fait, dans la pièce, c'est souvent quelque chose dont je parlais avec les spectateurs à la fin des représentations, c'est qu'en fait, tout ce qui est nommé dans la pièce existe, en fait. Le 911, la cathédrale principale des forces armées, le test de phallométrie, tous les éléments de la pièce existe réellement, en fait. Ça n'est pas du tout inventé. C'est romancé, c'est poétisé, mais ça n'est pas inventé, en fait. Et donc le 911, c'est le bar clandestin à Moscou, où on va dire c'est une sorte d'Eldorado, où bien passer la porte, vous pouvez être ce que vous voulez, puisque personne ne vous juge.
Et l'idée, c'est de le recréer dans le hall de chaque théâtre où vous allez ?
Alors, pour les théâtres qui le souhaitent, parce qu'évidemment, voilà, il faut le souhaiter, c'est parti d'un constat tout bête, un peu naïf peut-être, mais c'est que en France, on a encore le droit d'être par exemple travesti dans le hall d'un théâtre et de ne pas se faire tirer dessus pour ça. Donc j'estimais que c'était important, puisqu'on en a le droit, de le faire. Donc en fait, l'idée, c'était quand les spectateurs sortent de la pièce, le hall du théâtre est transformé en boîte de nuit avec des shows queer, travestis, créatures, pour justement prolonger en fait l'idée de ce 911. Et d'ailleurs, le 911 fait partie de la sélection. Quand je sélectionne les acteurs amateurs, en fait, c'est une des scènes que je leur fais faire en fait pour la sélection. Parce que je veux voir comment les corps se libèrent.
Alors, est-ce que ce sera le cas ? Est-ce que ce sera mis en place au Théâtre Antoine Vitez d'Aix-en-Provence ?
Et non.
On attendra les prochaines dates, alors.
Et oui, nous les attendons aussi.
Donc, en attendant, on peut donner rendez-vous le mardi 15 novembre 2022 de 19h à 20h30 et le mercredi 16 novembre 2022 de 20h à 21h30. 29 avenue Robert Schumann à Aix-en-Provence. Merci à vous deux d'être venus présenter ce spectacle vedette de la compagnie La Loge au Plateau.
Merci.
Merci.
C'était Jérôme Nounès et Geoffrey Copini.